Qualité de vie.
Solidarité au collège.
Micro-Gardo.
L'émission du Conseil départemental des jeunes.
Bonjour, est-ce que vous pourrez vous présenter d'abord s'il vous plaît?
Je m'appelle Nasser Aïs, je suis psychologue clinicien, psychothérapeute. Je suis libéral, j'ai un cabinet sur Montpellier et je travaille beaucoup sur la ville de Nîmes avec des associations, des groupes de parole de familles, de jeunes. Et je suis aussi psychologue à la maison des adolescents du Gard.
Est-ce que vous pourrez nous parler plus en détail des associations avec lesquelles vous travaillez et quel travail vous faites avec elles, s'il vous plaît?
Par exemple, l'association avec laquelle j'interviens aujourd'hui, c'est ALFE, donc Association de lutte et prévention du harcèlement à l'école ou au milieu scolaire. Qu'est-ce qu'on fait dans cette association? On accompagne les parents et les enfants qui sont dans des situations de harcèlement. On accompagne les parents seuls et on propose des groupes de parole pour ces parents-là. Et aussi des groupes de parole pour les jeunes harcelés ensemble. Et dans ces ateliers, on essaye de travailler la parole. Parfois, on utilise aussi le théâtre, le jeu de rôle, les mises en situation pour mieux expliquer le phénomène de domination, contrôle, des émotions et tout ça. Je collabore aussi avec des associations sur Nîmes où je anime des groupes de parole de parents de quartier et des jeunes de quartier. J'interviens aussi dans les collèges comme celui-là, par exemple. Demain, j'interviens auprès de 8 classes pour parler de la question de la laïcité et le phénomène de vivre ensemble et le respect des valeurs de la République. Ça peut être un exemple comme ça. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez pu retenir de la discussion de ce matin en comité?
Moi, j'étais très content de vos interventions parce que, au-delà que je vienne parler de l'harcèlement au milieu scolaire avec ma collègue Gabrielle Aquero, c'est aussi de vous écouter parce que vous vivez les choses dans vos établissements. Vous êtes témoin parfois, vous l'avez bien exprimé, témoin de situations de harcèlement. Et puis vos réflexions également sur le phénomène de harcèlement, vous les jeunes, ça nourrit aussi nos recherches, nos réflexions, et ça nous permet aussi de mieux accompagner les jeunes de votre âge quand ils sont dans une situation soit d'harceleur ou d'harcelé.
Est-ce que quand on est psychologue, ça facilite la vie mentale?
Ah, un psychologue, c'est d'abord un être humain. Il peut être fragile, il peut être en difficulté, parce que c'est la nature humaine. Mais un psychologue, s'il est psychologue, ça veut dire qu'il l'a choisi, ça veut dire qu'il aime ça. Il est passionné, ce que je vous souhaite, si vous faites un travail, un métier, soyez passionné par ce que vous faites. Parce que si on est passionné, on n'est pas passionné, on va être tout le temps en difficulté par rapport au métier qu'on exerce. Et moi, je suis passionné par ce que je fais. Et c'est ça qui me facilite les choses, d'être en contact facile avec les gens. Ça peut être les adultes, les jeunes, les moins jeunes, les enfants. Moralement ou pas moralement, si on est fier de soi, si on est en confiance dans ce qu'on fait, je pense qu'on peut être en harmonie avec nous-mêmes et puis on a cette facilité d'aller vers les autres parce qu'ils ont besoin de nous.
Avez-vous des conseils à donner aux collégiens pour qu'ils aient plus confiance en eux?
Alors, c'est une question un peu difficile de dire « je donne un conseil ». Moi, je ne donne pas de conseils. Qui suis-je pour donner des conseils? Par contre, je peux expliquer les choses, je peux échanger avec le jeune avant de lui dire « moi j'ai mon enfant, je ne vais pas le conseiller ». Je vais parler avec lui, je vais communiquer avec lui, je vais l'écouter d'abord. Qu'est-ce qu'il me dit? Donc quand je parle avec un jeune, je l'écoute d'abord. J'écoute ses difficultés, ses problèmes, peut-être ses questionnements, avant de l'aider. Pour cette question confiance en lui, il faut que lui, il soit en accord avec lui-même. Il faut qu'il s'aime d'abord lui, et s'il est bien entouré aussi, il y a un entourage familial qui est important. Si toutes ces choses-là ne sont pas mises en place, ne sont pas stables, ça peut créer de difficultés pour ce jeune d'avoir confiance en lui ou d'avoir confiance en elle et d'être dans une phase stable avec lui-même. Donc tous ces éléments-là, l'entourage, le lien social, lui-même comment il est dans sa vie d'enfant, qui font qu'il a confiance ou pas.
Est-ce qu'on peut être stable mentalement si on n'a pas confiance en soi?
Pour être bien avec soi-même, il faut qu'on soit en adéquation avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'aime. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Ça, c'est la première devise. Si moi, le matin, je sors et je dis, tu fais n'importe quoi, je ne suis pas fier de moi, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas cette estime de moi-même, je ne peux pas être à l'aise avec vous, je ne peux pas vous transmettre des choses. Et je ne peux pas être bien. Je n'ai pas un bien-être si je n'ai pas confiance en moi. Et donc, du coup, je vais chercher ce bien-être et cette confiance. Donc, je ne peux pas être bien moralement.
Vous avez toujours voulu être psychologue ?
Oui, toujours. Alors, je pense que je... Alors, pour l'histoire, moi, quand j'étais petit, je me voyais déjà pas psychologue, mais quelqu'un qui règle les problèmes et qui apporte des choses aux autres. Quand j'étais enfant, dans mon quartier, moi, je viens d'Algérie, je viens d'un quartier populaire. C'est pour ça que j'aime bien travailler dans les cités et dans les quartiers populaires. Quand mes copains se chamaillaient, j'essaie toujours de trouver là, une solution, toujours de les rassembler, de les réconcilier. Et dans ma famille, je suis au milieu d'une fratrie de 8. Donc j'en ai 4 et 3. Et j'étais le garçon qui était au milieu des frères et sœurs. Et tous mes frères et sœurs venaient me parler, me disent « Tu ne le répètes pas aux autres, ça reste entre nous. Hein. » Et donc moi, à partir de ce moment-là, je commençais à garder le secret. Donc garder le secret, aimer les autres, aimer résoudre les problèmes des autres, réconcilier les gens, leur donner de l'espoir. Quel métier je peux faire ? Donc j'étais tiraillé entre deux métiers. Quand j'ai eu mon bac, soit faire psychologue ou diplomate, c'est-à-dire ambassadeur ou consul. Finalement, le psychologue a triomphé et je suis là aujourd'hui, donc je suis psychologue.
Est-ce qu'à force de garder le secret professionnel, on n'a pas la conscience lourde ?
Une des bases du métier, c'est le respect de la parole de l'autre et le secret professionnel, c'est-à-dire qu'on ne répète pas, c'est-à-dire que ça reste entre nous. Mais si la personne est en danger, si l'enfant ou l'adulte est en danger imminent, là, on peut signaler pour le protéger, pas pour le dénoncer. Donc, le secret professionnel, c'est la base du métier. Du psychologue, j'accueille la souffrance. Un psychologue accueille la souffrance des autres. Et parfois, on a des situations très, 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 très lourdes, et voire même des fois graves. Et donc, c'est pas évident de gérer ça. Pour gérer ça, il faut être bien avec soi-même, avoir confiance en soi et aimer la vie et aimer les autres. C'est ça qui nous aide à continuer à aider les autres. Si nous-mêmes, on est en difficulté par rapport à nous-mêmes, on ne peut pas aider les autres, il faut changer de métier. Un psychologue doit être stable dans sa personne et doit être heureux dans la vie pour transmettre cette joie, parce que les autres viennent poser quand même des situations de souffrance, extrême souffrance. Si vous n'êtes pas capable d'accueillir cette parole, ça va être compliqué pour eux. Et donc, c'est ça qui vous aide à continuer.
Peut-on être isolé au sein d'un groupe ?
Ben oui, si le groupe a décidé de vous isoler, il vous isolera. Il vous isolera pour plusieurs choses. Si il vous trouve que vous êtes faible, que vous êtes un peu triste, et vous n'êtes pas dynamique, et peut-être vous avez des problèmes, vous êtes malade, vous êtes handicapé, vous avez une différence, ben ils vont vous isoler. Donc on peut être isolé dans un groupe, bien sûr. Ce qu'on disait tout à l'heure.
Et comment sortir de cette situation d'isolement dans un groupe ?
Alors, c'est compliqué pour sortir de l'isolement. Pourquoi ? Parce qu'il y a autour de nous, il y a un groupe, et le groupe, c'est une force. Quand vous êtes entouré d'un groupe, ce groupe-là, il constitue une force et une domination. C'est un rapport de force entre le groupe et l'individu. Si l'individu il est seul, donc ça, ils vont le voir comme une victime. Il est déjà dans la posture de victime et de cible. Donc ça va être compliqué pour lui de sortir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est comme on disait tout à l'heure, il faut l'aider. Et on l'aide comment ? On parle à un adulte, et on va essayer de parler avec la famille, avec les adultes qui sont autour de lui, et s'il a besoin, lui proposer un accompagnement adapté. Ça peut être un accompagnement psychologique.
On a vu que le manque de confiance en soi pouvait avoir des conséquences sur nous-mêmes, et par rapport aux autres, qu'est-ce que ça peut faire, en fait, de ne pas avoir confiance en soi, à part l'isolement ? Est-ce qu'il peut avoir des conséquences lourdes ?
Quand on perd confiance en soi, on perd le contrôle sur nous-mêmes. Et quand on perd le contrôle sur nous-mêmes, on tombe dans une phase de doute. Et cette phase de doute, elle peut provoquer des souffrances extrêmes, telles que la dépression. Vous savez que la dépression, on peut la trouver chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte. La dépression, c'est quoi ? C'est qu'on s'isole, on se replie sur soi-même, et on pense qu'on est seul au monde et que personne ne nous aime. Donc on perd cette estime de soi et que tout le monde est contre moi, je suis seul. Et là, les idées viennent, les idées noires, les idées négatives arrivent dans ma tête et ça va très vite. Et à ce moment-là, on commence à dire comment je peux sortir de là. Donc là, ça peut passer par de l'autodestruction, ce qu'on disait tout à l'heure. Soit on commence à consommer des drogues, soit on commence à se scarifier. Et puis ça provoque aussi des troubles alimentaires et des troubles du sommeil. On fait des cauchemars et ça se bouscule tellement dans la tête. Et parfois, ça peut passer par un geste grave, passage à l'acte, suicide.
Ça fait combien de temps que vous faites psychologue ?
Depuis ma naissance. Je te l'ai dit, depuis gamin, j'étais psychologue, je pense. Non, depuis maintenant une trentaine d'années, ouais, que je pratique. Et tous les jours, c'est nouveau. Donc c'est ça qui est magique dans ce métier. Au-delà d'aider les gens, on rencontre des personnes. C'est des rencontres. Moi, toute ma vie, c'est des rencontres. J'aime pas dire mes passions, mais avec les personnes que je reçois dans mon cabinet ou avec qui je travaille.
Que diriez-vous à l'enfant que vous étiez avant ?
Alors, à cet enfant-là qui est toujours avec moi, il ne m'a jamais quitté. Je lui dis que je l'aime et que... Bon, c'est émotionnel. Que je l'aime et que je suis fier de lui.
Est-ce que vous pourrez définir un peu ce que c'est la confiance en soi ?
Alors là, c'est une thèse que je vais écrire là-dessus. Moi, je vais résumer un peu. Alors, la confiance, c'est déjà quelque chose qui est lié à soi-même. On a confiance en nous parce qu'on s'aime, on est bien. C'est-à-dire, mon meilleur ami, c'est moi-même. Je vous le dis, hein. Mon meilleur ami dans la vie, c'est moi. C'est le premier. La première personne que j'aime dans la vie, c'est moi. C'est symbolique. Ça ne veut pas dire que j'aime pas ma mère, j'aime pas mes parents, j'aime pas ma femme, j'aime pas mon enfant. C'est pas ça. C'est que si vous êtes en confiance, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la gratification narcissique, j'allais dire, personnelle. C'est-à-dire, c'est pas de l'arrogance. Je m'aime parce que je suis fier de moi et j'aime ce que je fais. Et à partir de là, j'ai un capital de confiance qui me permet de mieux aider les gens, de mieux aller dans ma vie et d'aimer la vie, d'aimer les gens et de profiter de mon existence avec les voyages, les rencontres, tout ce qui me fait plaisir. Et quand je suis dans cette dynamique-là, je ne peux que rayonner pour donner le meilleur de moi-même aux autres. La confiance, elle est là. Si je n'ai pas cette confiance-là, c'est les autres qui vont m'installer dans une posture de non... enfin, j'allais dire négative. Et je vais à chaque fois attendre que les autres me donnent ou me distribuent la confiance. Et là, il y a un problème, parce que ça vient des autres. La confiance en soi, on l'acquiert, ça vient de nous, d'abord.
Est-ce qu'on peut dire que la confiance en soi amène à une dépendance affective ?
La confiance, il faut qu'elle soit ni trop loin, ni trop proche. C'est le bon dosage. C'est comme vous faites un bon repas avec des bons ingrédients et tout le monde vous dit « c'est très bon, c'est super équilibré ». C'est la question de l'équilibre. Ni trop loin, ni trop proche, ni trop arrogant, ni trop retiré. Il faut avoir cette juste place pour être vraiment en harmonie avec soi-même. Ça, c'est la confiance. C'est celle-là. Il y a uniquement celle-là. À partir du moment où on amplifie les choses et on pense qu'on est plus fort que les autres, on est plus intelligent, on est meilleur ou on est moins que les autres, là, on perd la confiance en soi. La confiance en soi, c'est cet équilibre entre ce que les autres me renvoient et ce que je renvoie à moi-même. Tout ce qui est hyper ou hypo, c'est-à-dire que, comme disait une grande psychologue française, Françoise Dolto, dans l'éducation, elle dit qu'il ne faut pas que la mère, quand elle éduque son fils, quand il est petit, bébé, hyper-protectrice ou hypo-protectrice. Si on surprotège quelqu'un, on va faire à sa place, il va perdre confiance, on la fait toujours à ma place. Si on ne fait pas pour lui, on le délaisse, on l'abandonne, il va perdre confiance en lui. Donc il faut être à la juste place. Et bien évidemment, quand c'est exagéré ou moins, ben on tombe dans la dépendance affective, bien sûr. Surtout chez les adultes.
Vous avez un dernier mot à nous dire ?
Ben, ce que je peux vous dire, que je suis ravi de cette rencontre et que je suis sûr que vous allez plus loin dans vos projets. Et je vous souhaite vraiment la réalisation de tout ce que vous souhaitez. Et ne perdez jamais confiance en vous. Et pensez que même si vous êtes dans des moments difficiles, c'est comme si vous prenez un tunnel et au bout du tunnel, il y a une petite lumière. Et cette lumière, elle vous ouvre les autres lumières. Mais si vous restez coincé au milieu du tunnel, vous stagnez et vous perdez tout. Donc pensez à cette petite lumière, qui au bout de cette petite lumière, il y a de grandes lumières. Et faites-vous confiance. Je vous remercie.
Qualité de vie.
Solidarité au collège.
Micro-Gardo. L'émission du Conseil départemental des jeunes.